La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'on se le dise, l'amour est au programme des concours aux classes préparatoires scientifiques cette année et au programme de beaucoup d'entre nous, jeudi prochain, jour de la Saint-Valentin. Mais peut-on programmer l'amour? Ne doit-il pas simplement surgir, presque à notre insu, par la magie de la mise en présence? Faut-il un filtre d'amour, une flèche de Cupidon? L'amour a-t-il besoin d'un pharmacone? Et une fois qu'il a surgi, cet amour est-il seulement bien convenable? Voilà des questions qui ont intrigué bien des écrivains. Et nous allons voir cette semaine ce que certains d'entre eux ont fait de toutes ces interrogations. Jeudi, nous irons regarder du côté de La Chartreuse de Parme et du Songe d'une nuit d'été. Deux œuvres au programme donc des prépas scientifiques, ce sera avec Frédéric Saillère et Emmanuel Caquet. Mercredi, c'est de l'apprivoisement de l'amour physique dont il sera question avec Catherine Millet qui nous parlera de sa lecture de L'amant de Lady Chatterley. Enfin demain, nous remonterons les siècles jusqu'à Tristan et Iseut en compagnie de Christiane Marcello-Nisia. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour une brève histoire des romans d'amour, et pour évoquer les caractéristiques du genre, nous sommes avec vous, Pierre Lepape. Bonjour.
Bonjour.
On vous doit le livre intitulé « Une histoire des romans d'amour » paru au Seuil, dans lequel vous retracez cette histoire sur une vingtaine de siècles, depuis Apulée jusqu'à Albert Cohen, Kundera ou encore Annie Ernaux. Mais vous avez dû en laisser de côté, et même un bon nombre. Pierre Lepape, ça n'a pas dû être facile de choisir.
Non, j'en ai gardé environ 90, je crois, si je me souviens bien. Mais au départ, j'avais un panel beaucoup plus important qui tournait autour de 200 ou 300 romans. Et puis, il fallait bien sûr d'abord épurer. Et puis, en relisant tous ces romans d'amour, je fais qu'il y avait véritablement une histoire des romans d'amour. Dire que contre l'idée générale que l'amour est éternel, qu'il est le même ici et là, il a toujours été pareil, les romans d'amour nous prouvent exactement le contraire. C'est-à-dire depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, puisque c'est à peu près là qu'on commence à parler de romans d'amour, ce sont des récits amoureux, ou plus que des romans véritablement, puisque le roman par définition n'existe pas, mais jusqu'à maintenant, il se déroule toute une histoire des romans qui, en même temps, est une histoire de l'amour.
Donc, on ne lit plus les mêmes romans d'amour aujourd'hui qu'il y a 20 siècles, et c'est aussi parce que ces romans d'amour ont changé eux-mêmes dans leur forme et dans la manière dont ils racontaient ces histoires d'alchimie entre deux êtres, que l'amour réel a lui-même évolué, Pierre Lepape.
Oui, c'est-à-dire que le roman fait toujours deux choses à la fois différentes et même que voire contradictoires, c'est qu'il décrit un état de choses et qu'il invente un autre état de choses. Et entre la description et l'invention, le roman, d'une certaine manière, invente des formes amoureuses qui n'existaient pas du tout à l'époque où il est écrit.
Alors, est-ce qu'il y a une caractéristique un petit peu générale qu'on pourrait retrouver comme ça et qui ferait une histoire des jalons de l'amour en littérature et donc du coup de l'amour dans la vie?
Exactement, c'est l'écart, je dirais, entre l'amour réel, la vie réelle et ce qu'il y a dans les romans d'amour qui crée de nouvelles formes amoureuses. Oui. Et finalement, bon, le roman sert toujours d'une certaine manière de pédagogie. Les romans d'amour sont faits pour que les jeunes gens apprennent dans les livres ou dans les récits ce qu'est l'amour, parce que ils ne le savent pas, ça leur tombe dessus. Il y a des choses qui leur tombent dessus et il faut qu'ils arrivent à les expliciter.
Mais donc au fur et à mesure on est allé vers plus de quoi alors?
on est allé vers plus, alors vers plus de connaissances du sentiment amoureux et des pratiques amoureuses. On est allé aussi vers des choses qui étaient interdites d'une certaine manière dans les romans classiques et que l'on découvre dans les romans d'amour modernes. On est allé vers aussi des formes romanesques tout à fait nouvelles. Par exemple, l'introduction du jeu à l'intérieur du roman, qui est un bouleversement de l'idée romanesque, est quelque chose qui apparaît au XVIIe siècle, à un moment précis, et qui va complètement transformer la manière de parler des romans d'amour, puisque c'est la personne elle-même qui va en parler.
Et en même temps, on a l'impression que dans toute littérature, ou presque, il y a de l'amour, il y a une narration d'une histoire d'amour. Est-ce que ça suffit pour faire un roman d'amour, qu'il y ait une histoire d'amour dans un roman ?
Non, parce qu'il y a des histoires d'amour qu'il y en a surtout, il y en a d'abord au départ dans la poésie. La poésie amoureuse est bien antérieure au roman d'amour. Mais le roman impose une forme spécifique de connaissance de l'amour qui n'existe pas ni dans le conte, ni dans... C'est pour ça que dans le livre que j'ai fait sur les romans d'amour, on ne parle pas, par exemple, des Mille et Une Nuits, qui est une suite de récits où l'amour tient une grande place, mais ça n'est pas un roman. C'est-à-dire que la fonction du roman, qui est à la fois d'écrire et d'inventer, ne se retrouve pas dans ces contes.
Et vous dites, le lecteur ou l'auditeur de contes n'est pas amoureux de la même façon qu'un lecteur de roman.
Non, je crois que les civilisations où le roman d'amour est arrivé très tard, l'ont ressenti. Je vois quand on voit l'arrivée du moment d'amour au Japon, par exemple, qui arrive au début du 19e siècle. Auparavant, les Japonais n'avaient pas des relations amoureuses qui étaient les mêmes que celles qui sont apparues lorsque le roman s'est imposé au Japon comme une forme narrative particulière.
Est-ce qu'on peut apprendre du roman d'amour comment être un meilleur amoureux ou une meilleure amoureuse?
C'est le but même des romans d'amour. Le roman d'amour vous dit quand vous êtes amoureux, parce que sinon vous ne le savez pas.
Vous ressentez quand même quelque chose.
Vous ressentez des choses, mais vous ne savez pas ce que c'est que vous ressentez. Et les romans d'amour sont d'abord faits pour les jeunes gens. Les romans d'amour sont faits pour les jeunes gens et pour les jeunes filles. C'est pour ça qu'on les trouve d'ailleurs quelquefois si dangereuses, parce que d'une certaine manière, ils éclairent les jeunes personnes sur ce qu'a priori ils ne devraient même pas savoir.
Donc c'est aussi des romans d'apprentissage, ces romans d'amour.
Ce sont toujours des romans d'apprentissage. Les romans d'amour apprennent ce que c'est que l'amour. Il y a un roman grec qui est tout à fait particulier, qui est Daphnis et Chloé. Mmh. Et Daphnis et Chloé éprouvent des sentiments l'un vers l'autre, mais ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Et c'est à travers le récit qu'ils se font à eux-mêmes de leur propre expérience qu'ils découvrent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre.
Alors là, vous nous expliquez en quoi on peut apprendre à aimer en lisant les romans d'amour. Et en même temps, dans votre livre, et plus spécifiquement dans votre conclusion, Pierre Lepape, vous dites que quand même, il faudrait faire attention à ne pas croire que le roman d'amour, c'est une leçon de vie qu'il faudrait comme ça utiliser un petit peu bourgeoisement comme une sorte de manuel à la bonne vie de couple.
Non, bien sûr, puisque le roman d'amour aussi éclaire sur le trouble. Je veux dire que le roman d'amour montre que l'amour, c'est du mêlé, que c'est du compliqué, que c'est que ça met en jeu des tas de choses qui a priori ne se trouvent pas dans les romans et que les jeunes gens vont découvrir par eux-mêmes.
Puis ça reste du roman, donc ça reste de l'art aussi en tant que tel, qui ne sert à rien.
Il y a eu une époque où on a pensé que le roman c'était essentiellement du roman d'amour, que le roman ne pouvait servir qu'à ça. D'où l'idée d'ailleurs que le roman ne valait pas grand-chose. C'est à partir du 19e siècle vraiment que le roman est considéré comme un art. Auparavant, il ne l'est pas.
Des auteurs sur France Culture. Nous parlons des romans d'amour en général avec vous, Pierre Le Pape. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail d'un certain nombre d'entre eux, peut-être encore un petit peu de généralité. Cette idée que l'un des ressorts du roman d'amour, c'est d'aimer celui ou celle qu'il ne faut pas. Autrement dit, l'amour impossible, c'est une constante du roman d'amour. Il n'y a pas tellement de romans d'amour si l'amour est tout de suite donné comme possible.
Il n'y a pas de roman d'amour s'il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a de roman d'amour qu'à partir du moment où quelque chose fait obstacle. Ce qui est nouveau dans le roman moderne, par exemple, c'est que ce qui fait obstacle à l'amour, ce sont les personnages amoureux eux-mêmes. Et c'est l'invention du...
Alors qu'avant, c'est la famille, quoi.
Avant, c'est la famille, avant, c'est la société, avant, c'est les interdits de toutes sortes qui l'empêchent. Parce que les romans d'amour, au moins à l'origine, sont des romans de mariage. C'est pas est-ce que ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ça, on le sait dès le départ, ils sont amoureux l'un de l'autre. Mmh. C'est est-ce que leur mariage va pouvoir avoir lieu ou pas. Et quelquefois, il se passe entre le moment où on tombe amoureux et le moment où le mariage est possible, il se passe tout l'espace du roman, c'est-à-dire quelquefois des milliers de pages.
Donc, vous n'avez pas trouvé d'exemple d'un roman d'amour qui se passerait bien entre les deux amoureux du début à la fin. Ça n'est pas possible.
Non, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de roman. Le roman essaie simplement de dénouer des problèmes.
Oui, c'est comme les informations, on ne parle que des trains qui arrivent à l'heure.
Et de créer des problèmes. Lorsqu'il n'y a pas de problème, les amoureux vont eux-mêmes s'en créer pour pouvoir vivre véritablement un roman d'amour.
Alors des problèmes, il y en a dans le premier roman d'amour qui date, pour vous en tous les cas, de l'année 160. Il s'agit d'Eros et Psyché d'Apulée. On en écoute tout de suite un premier extrait.
Psyché demeura comme transportée à l'aspect de son époux. Dès l'abord, elle jugea bien que c'était l'amour, car quel autre dieu lui aurait paru si agréable? Ce que la beauté, la jeunesse, le divin charme qui communique à ces choses le don de plaire, ce qu'une personne faite à plaisir peut causer aux yeux de volupté et de ravissement à l'esprit, Cupidon, en ce moment-là, le fit sentir à notre héroïne. Il dormait à la manière d'un dieu, c'est-à-dire profondément, penché nonchalamment sur un oreiller, un bras sur sa tête, l'autre bras tombant sur les bords du lit, couvert à demi d'un voile de gaze, ainsi que sa mère en use, et les nymphes aussi, et quelquefois les bergères. La joie de Psyché fut grande, si l'on doit appeler joie ce qui est proprement extase. Encore ce mot est-il faible, et n'exprime pas la moindre partie du plaisir que reçut la belle. Elle bénit mille fois le défaut du sexe, ce sut très bon gré d'être curieuse, bien fâchée de n'avoir pas contrevenu dès le premier jour aux défenses qu'on lui avait faites et à ses serments. Il n'y avait pas d'apparence, selon son sens, qu'il en dût arriver de mal, au contraire. Cela était bien et justifiait les caresses que jusque-là elle avait cru faire à un monstre. La pauvre femme se repentait de ne lui en avoir pas fait davantage. Elle était honteuse de son peu d'amour, toute prête de réparer cette faute si son mari le souhaitait. Quand même, il ne le souhaiterait pas.
Une lecture par Françoise Flechter, Pierre Le Pape. Vous dites que c'est le roman originaire de l'amour, Eros et Psyché.
Oui, c'est parce que avant d'avoir l'amour entre deux personnes humaines, oui. Je dirais, l'amour d'une personne humaine et d'un dieu, oui. c'est une transition.
Parce que Psyché est une femme, alors que Cupidon est un dieu.
Cupidon est un dieu. Et un dieu, théoriquement, ne doit évidemment pas aimer une mortelle. Il peut la séduire, il peut lui faire du mal, mais et en fait Cupidon d'ailleurs a été envoyé pour punir Psyché, hein, et malheureusement il est tombé amoureux d'elle.
Mais c'est pas n'importe quel mortel quand même, parce que c'est une personne qui est tellement belle que de toute façon elle ne peut pas être aimée par d'autres mortels parce qu'elle est trop intimidante. Voilà. Et finalement, sa beauté immense, c'est une malédiction pour elle.
Oui, oui, c'est un des thèmes aussi des romans d'amour qu'on retrouvera plus tard. C'est la beauté qui paralyse véritablement. C'est une beauté divine. Mmh. Donc une beauté divine n'a pas le droit à l'amour des humains ordinaires. Oui. Et les femmes prisonnières de leur beauté, c'est un des thèmes qu'on va retrouver dans les romans amoureux jusqu'au 19e siècle.
Alors la solution, évidemment, c'est d'élever Psyché, la mortelle, au rang de déesse, afin qu'elle puisse se marier avec Cupidon.
Voilà, mais ça, c'est là les dieux ne sont pas complètement d'accord.
Ah non.
Dire que
c'est la porte ouverte à tout. Comme
on n'entre pas dans le royaume des dieux aussi facilement, et donc la pauvre Psyché va connaître tous les ennuis du monde pour avoir osé être aimée par Cupidon.
Est-ce que le roman d'amour, ça n'est pas toujours justement l'histoire aussi d'une tension entre la psyché, alors cette fois de manière générale, et l'éros que pourrait représenter Cupidon ?
Ça a été pendant un certain moment l'un des ressorts des romans d'amour, mais ça ne l'est pas toujours.
Ça n'est peut-être plus aujourd'hui, ou ça l'est moins aujourd'hui.
Ça l'est moins aujourd'hui, et ça l'était moins à l'origine. Où les romans d'amour, c'était, je dis essentiellement quand même, des romans de mariage. C'était est-ce que le mariage va enfin pouvoir avoir lieu entre ces deux personnes qui s'aiment, ou est-ce qu'au contraire ils vont être séparés jusqu'à la fin de leur vie. La tension entre le désir et le sentiment. Ça fait évidemment partie de, mais c'est plutôt dans la tradition moyenâgeuse que dans la tradition antique et classique.
Alors le roman de la rose, par exemple, on peut peut-être en dire deux mots. Ce livre de Guillaume de Loris, oui. c'est un nom pour un collectif vraisemblablement.
C'est un collectif de moines sans doute.
Sans doute.
Hein, et alors c'est un roman qui n'en finit pas, mais on ne comprend pas aujourd'hui l'importance qu'a pu avoir ce roman dans tout le Moyen Âge. C'est serait l'équivalent aujourd'hui d'un best-seller mondial. Et l'influence de ce roman dure pendant trois siècles.
Et qu'est-ce qu'il change alors, ce roman, sur la société de l'époque? Je rappelle qu'il est apparu en 1230.
C'est un roman du XIIIe siècle qu'on va lire jusqu'au XVIIe. et dont on va faire des tableaux, dont on va faire des récits, des pièces de théâtre, c'est une façon de rendre l'amour en quelque sorte un sentiment quasi religieux. Il y a une divinisation de l'amour chez les Grecs, et il y a une religion de l'amour qui se fait autour du roman de la Rose et de ses continuations, parce que le roman de la Rose a été Guillaume de Lorris a arrêté son roman et il a été repris 50 ans plus tard par Jean de Mingue, qui est un autre moine, qui va le transformer très curieusement en roman anti-féministe.
Ah oui. En quel sens?
En ce sens que l'amour des femmes, d'une certaine manière, est considéré comme un malheur qu'on doit essayer d'éviter. Il y a toute une tradition religieuse qui fait de l'amour, même dans le mariage, qui fait de l'amour des femmes une tentation du diable d'une certaine manière, et donc un roman d'amour ne peut que mal se terminer parce que dedans il y a des femmes qui s'en mêlent et les femmes c'est le diable lui-même.
Alors si on avance un petit peu dans les siècles, il y a un autre roman très important, celui d'Honoré d'Urfé, la fameuse Astrée, qui va avoir un petit peu, je pense, enfin vous allez nous le dire, le même effet sur la société, oui, que le roman de la Rose. C'est-à-dire que d'abord ça va être un best-seller aussi, et puis ça va complètement changer justement la manière dont les hommes et les femmes vont se parler d'amour et agir l'un envers l'autre.
Oui, alors Honoré d'Urfé, c'est un soldat, curieusement. Hein. C'était un, donc qui a eu l'habitude plutôt des camps et des luttes que des problèmes amoureux, mais qui va écrire ce roman d'amour qui est en effet le best-seller pendant un siècle.
Énorme roman, hein, 5000 pages.
5000 pages, des milliers de vers. Ça se passe dans le forest, hein, c'est un tout petit coin de campagne. Alors c'est aussi l'introduction véritablement de la nature dans le roman, hein, en même temps que et c'est l'invention d'un sentiment amoureux complètement éthéré, complètement où à la différence même contre Jean Demain et les femmes, au contraire, sont devenues des personnages qu'on ne touche à peine, qu'on touche à peine des yeux.
C'est le début. Enfin, c'est l'amour courtois en tous les cas.
C'est plus que l'amour courtois, parce que l'amour courtois, c'est quand même la conquête des femmes par des jeunes chevaliers, etc. Là, on a remis. Ça n'a pas de temps. Le temps de d'Urfé, c'est le temps des Gaulois. Ouais. C'est un temps complètement indéfini. Et les femmes, d'un seul coup, sont l'objet d'admiration, de vénération, mais finalement, on n'y touche pas. Hein. Mm-hmm. L'amour n'existe que dans la distance. L'amour n'existe que dans la plus grande des politesses. C'est une manière pour les femmes de se préserver des assauts des hommes.
Alors on va continuer à avancer comme ça à très grands pas jusqu'à l'époque classique et un extrait du célèbre livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther.
Elle était partie depuis quelques jours chercher Albert. Aujourd'hui, j'entre dans sa chambre. Elle vient à ma rencontre et je lui baise la main avec mille joies. Un canari, du miroir où il perchait, vint se poser sur son épaule. « Un nouvel ami, dit-elle en l'attirant sur sa main. C'est à mes petits que je le destine. Il est si gentil. Voyez-le. Quand je lui donne du pain, il bat des ailes et picore si sagement. Et il me donne aussi des baisers, regardez. » Elle tendit sa bouche au petit oiseau qui, se pressant contre elle, mit son bec entre ses douces lèvres aussi amoureusement que s'il eût pu sentir la félicité dont il jouissait. « Je veux qu'il vous en donne un aussi, dit-elle, me tendant la bestiole. » Et le petit bec fit le chemin de sa bouche à la mienne, et son picotement fut comme un souffle plein d'amour, comme un avant-goût de suprême jouissance.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons des romans d'amour dont nous refaisons l'histoire à grands pas comme cela avec vous, Pierre Lepape. Et vous avez reconnu, bien entendu, la voix de Roland Barthes qui lisait cet extrait des souffrances du jeune Werther. Barthes qui est un grand spécialiste, évidemment, de l'amour en littérature, sans doute davantage que dans la vie. Vous dites que ce roman d'amour de Goethe, il invente une révolution sentimentale irrémédiablement païenne et privée de toute transcendance. C'est le romantisme, ça, ou c'est un, pas encore c'est, tout à fait ça?
C'est déjà le romantisme. C'est un événement étonnant, d'ailleurs. Hein, la parution même des souffrances de Jeanne Werther, c'est dans toute l'Europe, tous les jeunes gens, quels que soient, dès qu'ils savent lire, en quelque sorte, s'habillent comme Werther, vont se... en voyage sur les lieux de Werther, et quelquefois même se suicide comme Werther. Enfin, c'est un phénomène de, c'est le premier grand phénomène de presse, je dirais, des temps modernes.
Mais alors là, on arrive vers un amour qui est de plus en plus auto-centré, finalement, de plus en plus intérieur, de plus en plus narcissique. Le roman d'amour, oui. Ça va être, à partir de là, de plus en plus ça.
Oui, alors là, ce qu'invente Goethe, avec d'ailleurs, son, lui-même était surpris par le succès de son livre, et après dit le contraire de ce qu'il disait dans Werther, enfin, parce qu'il a senti que il y avait là des formes amoureuses qui étaient d'une certaine manière maladives, parce que Werther, finalement, ce qu'il aime dans la femme qu'il voit, c'est le fait qu'il ne peut pas l'atteindre. En fait, ce qu'il aime dans l'amour, c'est l'amour et rien d'autre. S'il y avait une petite chance que elle se rapproche de lui véritablement, qu'elle puisse combler son désir amoureux, il fuirait sans doute, ou en tout cas il serait parfaitement déçu. Oui. Or, il mène ça jusqu'à la mort. Oui. Ce que raconte cet amour romantique, on le retrouvera après, c'est d'une certaine manière l'impossibilité du moi qui est devenu si énorme de rencontrer quelqu'un qui le satisfasse.
Oui. C'est un peu la même chose avec Benjamin Constant. Un petit peu plus tard, Adolphe, son roman, qui est finalement l'histoire d'amants qui s'aiment, mais qui s'aiment pour de mauvaises raisons. En réalité, ils ne s'aiment pas, ils aiment l'idée qu'ils se font, soit la personne qu'ils ont en face de lui ou d'elle, soit même l'idée que finalement ça doit être bien d'aimer cette personne.
Ils aiment les romans d'amour, et donc ils se fabriquent un roman. Avec ce personnage-là, ça aurait pu être quelqu'un d'autre à la limite, mais l'important c'est d'avoir un roman et d'être le héros du roman que l'on vit.
Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur l'idée que finalement l'effet du roman dans la société va aller grandissant, puisque tout le monde veut devenir un personnage de roman.
Bien sûr, bien sûr.
On va continuer de parler de ça avec vous, Pierre Lepape, juste après la chronique de Baptiste Liger.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Baptiste Ligier, rédacteur en chef du magazine Lire, bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un écrivain, chanteur et musicien.
Oui, en effet, on parlait de romans d'amour, là on va plutôt être du côté de l'amour des animaux, je vous en dis pas plus. En fait, on connaît tous ce cliché français, ou plutôt sur les Français, qui voudraient qu'on n'aime pas forcément les artistes qui œuvrent dans différents domaines, dans différentes disciplines. Bon, je rappelle qu'on est quand même le pays de Jean Cocteau, ce qui manque pas d'ironie, rayon touche à tout de génie. Mais il se trouve que maintenant, la polyvalence de certaines personnes provoque l'actualité, et cette actualité, elle se décline de différentes manières, avec une sortie simultanée de différents événements. Par exemple, un film et un livre, une pièce de théâtre et un film et un DVD, etc. Ou dans le cas, et c'est celui de Bertrand Belin, d'un nouveau roman, Grand Carnivore, et d'un nouvel album, Persona.
Alors, on le connaît en effet comme musicien et chanteur. Vous nous dites qu'il est donc aussi écrivain. De quoi est-il question dans ce nouvel ouvrage qui paraît chez POL?
Il s'agit du troisième roman de Bertrand Belin, dont on avait déjà pu apprécier dans le passé deux bons romans, Requin et Littoral. Et donc, Grand Carnivore, il nous plonge dans une petite ville portuaire, bon, un petit peu vieillotte, qui se trouve être le théâtre d'un combat symbolique entre deux frères. Bon, d'un côté, il y a eu le récent promu directeur des entreprises de Boulon, Ressort et Roudenté, c'est l'aîné, et il est de cette espèce d'homme qui signe au bas des documents et non celle qui les rédige. Et là, ce garçon qui est un petit peu aigri, il tient là sa revanche sur son satané cadet qui, contrairement à lui, dès son plus jeune âge, n'a toujours connu que l'amour de ses proches. Il y a de quoi être un petit peu énervé, évidemment, au fil des ans. Alors, ce sentiment d'être quelque peu mésestimé lui a donné l'envie d'être supérieur, de soumettre les autres à son autorité. Et cette promotion tombe au moment où son frère, peintre de son état, présente ses nouvelles toiles au grand hôtel local, qu'il considère bien entendu comme des croûtes. Il va sans dire. Mais d'ailleurs, que représente vraiment l'art pour cet homme un petit peu replié sur lui-même, mais en même temps assez fier de cette nouvelle situation? L'art pour lui, ça n'est pas forcément grand-chose. Et tous ces événements, cet affrontement, a lieu au moment où un cirque vient de s'établir en ville. La fête bat son plein d'ailleurs, dans le quartier malfamé du labyrinthe, où les saltimbanques viennent un petit peu s'arsouiller. Or, le dompteur et le valet de cage de ce cirque n'auraient-ils pas un petit peu abusé de la bouteille? Toujours est-il que dans cette ville, les fauves ont disparu et sont introuvables. On ne les voit pas, mais la population de cette petite cité a peur. Et à travers cette galerie de personnages en couleur qu'on croirait presque issue d'un roman de Laszlo Krasznahorkai, la mélancolie de la résistance qui avait inspiré à Bellatar un très beau film, Les Harmonies Wachtmeister, l'auteur Bertrand Belin réussit un conte assez noir, à l'écriture sèche et assez belle. Et au-delà de la tragédie familiale, de la réflexion sur l'art et sur l'argent, il signe surtout un livre étonnant dans sa narration et peut-être plus politique qu'il n'en a l'air. Et Grand Carnivore nous parle en effet de mépris social, de conflits de classe, de jeux de pouvoir et de domination, qui est une certaine forme de dévoration, ainsi que des mécanismes de la peur.
Alors Baptiste, est-ce qu'on trouve des traces de ce roman dans le nouvel album de Bertrand Belin qui s'appelle donc Persona?
C'est peut-être un effet de déformation professionnelle, mais on a quand même envie de chercher, tout simplement peut-être par réflexe professionnel, ou peut-être désir aussi de faire des liens naturels.
Parce qu'il est très poétique aussi dans ses paroles, donc le littéraire que vous êtes
Oui, il faut le dire que ses paroles sont assez remarquables, et il y a vraiment une âme de poète en Bertrand Belin. Bon, alors je me suis un peu laissé aller au jeu. Bon, on trouve quelques fauves, quelques grands carnivores, à savoir des lions de pierre ou de bronze, dont le titre justement intitulé Bronze. Bon, on trouve quelques autres mammifères, il y a un chien. Alors il faut le prendre au sens propre, au sens figuré, c'est autre chose. On a un ours, un loup, mais en fin de compte, rien de plus. Les oiseaux, en revanche, sont largement en rendez-vous à travers les titres de ces quelques 13 morceaux, dont certains ont des airs très ornithologiques. Il y a bec, il y a grand-duc, on ne peut pas être plus explicite. Mais bon, on croisera au passage des hiboux, des aigles, des rapaces, des pigeons qui, je cite, s'envolaient puis se reposaient, et même des choucas. Je n'ai jamais su si on disait chouka ou choucas.
Je pense qu'on dit chouka, mais
j'ai toujours hésité.
À vos Twitter.
Oui, absolument. Auditeurs. Mais la plume de Bertrand Belin, comme dans son roman, traîne un instant dans des lieux alcoolisés, tels cette maison du patron, où, je cite, on se prend à enjoliver la soirée avec des liqueurs. Il y a aussi un président qui va à l'opéra, et même un stakhanoviste qui pourrait, pourquoi pas, ressembler à l'aîné de Grand Carnivore, et qui dit je cite, et c'est assez beau, c'est une des plus belles chansons de l'album, « J'ai travaillé à travailler pour un travail. J'ai travaillé à travailler dans un travail. Toute une journée, j'ai travaillé, toute une vie, j'ai travaillé dans un travail. Chien camarade. » Justement, on retrouve le chien. Mais bon, en fin de compte, à chacun de l'interpréter comme il le souhaite, comme il le désire, d'autant que les mots ici sont mis en musique et dès lors prennent un tout autre sens que sur le seul papier.
Merci beaucoup Baptiste Liger pour votre chronique sur Bertrand Belin, dont le livre vient de paraître chez POL. À très bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture en cette semaine de Saint-Valentin. Nous revenons sur quelques-uns des grands romans qui ont jalonné l'histoire de la littérature amoureuse avec aujourd'hui Pierre Lepape, auteur d'Une histoire des romans d'amour, publié au Seuil en 2011. Alors nous parlerons de La Chartreuse de Parme de Stendhal jeudi prochain, mais on peut d'ores et déjà évoquer un autre de ses livres, Armance, dont voici tout de suite un extrait dans une adaptation de 1967.
Octave se trouvait placé sur un divan vis-à-vis une petite chaise qu'occupait Armance de Zoïlov, sa cousine. Et, par hasard, ses yeux s'arrêtèrent sur elle. Il remarqua qu'elle ne lui avait pas adressé la parole de toute la soirée. Armance était une nièce assez pauvre de Madame de Malivert, à peu près de l'âge d'Octave. Et comme ces deux êtres n'avaient que de l'indifférence l'un pour l'autre, ils se parlaient avec toute franchise.
Armance ne me fait pas de compliments. Elle seule ici est étrangère à ce redoublement d'intérêt que je dois à de l'argent. Elle seule ici a quelque noblesse d'âme.
Et oui, l'amour, le vrai, c'est celui qui procède au départ d'une certaine indifférence, celui qui laisse libre, semble en tout cas nous dire Stendhal. Qu'est-ce que vous retenez-vous, Pierre Lepape, de cet extrait qu'on vient d'entendre ?
Stendhal, c'est toujours la question de l'amour se pose toujours comme la question de l'échec. Dans Stendhal, ce qui est toujours le plus fort, le plus immédiat, c'est à la fois le désir d'être amoureux, l'envie d'être amoureux, et en même temps l'impossibilité presque continuelle d'être rejeté de cet amour, d'être éjecté. Là, dans Armand, c'est même une incapacité physique même de l'amour.
Vous dites qu'au centre du roman, il y a l'intrusion du corps malade.
Oui, le problème du héros, hein, qui n'est jamais explicite, comme Stendhal tourne toujours autour de son sujet et n'en parle jamais, mais il est obligé de fuir cette jeune fille parce que il se sait incapable physiquement de l'aimer. Et toute son énergie amoureuse est tendue vers l'échec de son projet.
Mais vous expliquez que plus largement, tout le 19e siècle est dominé par la hantise du corps malade, de la contagion, du délabrement, du pourrissement.
Oui, la deuxième partie du 19e siècle qui est, je dirais, dans toute la société française, hantée par la décadence. Oui. Alors on trouve ça dans Zola, évidemment. Hein, mais on trouve ça aussi dans Victor Hugo.
Donc c'est l'adaptation au thème de l'amour du sujet plus large de la décadence.
Voilà, même l'amour est malade, enfin, d'une certaine manière, dans une société qui, de toute façon, ne sait plus où elle va, si ce n'est qu'elle regrette sans plus de précision, un temps passé qu'elle mythifie totalement. Elle a peur de l'avenir d'une façon maladive. C'est en fait toute la bourgeoisie européenne qui a peur, qui voit partout les signes de la décadence, de la maladie, de la violence, et c'est l'époque des grandes révolutions du 19e.
Mais ça se passe surtout dans les villes. L'amour à la campagne, c'est un petit peu autre chose. Alors le 19e, c'est peut-être un amour davantage dans les villes, sauf peut-être du côté de la gentry anglaise. Et là, je pense à Emily Brontë au haut de Hurlevent, où là, on est dans une forme d'amour qui est très proche du rapport à la nature.
Oui, alors là, on est même du côté, je dirais, tellurique, du côté grands orages, grandes landes désertiques, où véritablement les amoureux, lorsqu'il y en a, sont plus proches de l'affrontement que de la félicité amoureuse.
On n'est plus dans les salons, là. On est justement dans un lien d'amoureux qui est proche du rapport qu'ont les enfants quand ils jouent. Et c'est ça que vous expliquez dans votre livre au sujet des Hauts de Hurlevent. C'est que la différence sociale entre les deux petits, enfin le petit amoureux et puis celle qu'il aime, est atténuée par le fait que ça se passe comme ça au milieu des éléments et que ça rappelle et qu'ils ont joué quand ils étaient enfants ensemble dans la lande.
Voilà, il y a une sorte d'innocence à la fois de l'enfance et de la nature qui les rapproche, alors que tout le reste les éloigne l'un de l'autre, d'où les drames qui vont venir dans le haut du Hurlevent. C'est quelque chose d'assez épouvantable, hein. C'est pas il y a tous les personnages sont déchirés, tous les personnages sont malheureux, l'enfance et le souvenir et le goût de la nature sont des refuges contre la réalité qui, elle, est celle de l'affrontement le plus violent.
Alors, dans les petites villes françaises aussi, il y a des histoires d'amour, hein, évidemment, au 19e siècle. On pense à Emma Bovary, qui vit un petit peu, quand même, comme on le disait tout à l'heure, au sujet de Benjamin Constant du livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, un petit peu dans les livres, elle aussi. Est-ce que c'est un roman d'amour, Madame Bovary, ou est-ce que c'est un roman sur ce qui se passe dans la tête d'une lectrice?
C'est un roman sur les romans d'amour. C'est un roman dont le principe même est que les romans d'amour tels qu'on les a écrits jusqu'à présent sont des romans faux, sont des romans qui entretiennent des illusions, sont comme dans la vie politique, les romantiques ont entretenu des illusions sur la libération, sur le rassemblement des classes, etc. Et Flaubert fait le lien entre les deux. Bovary, Madame Bovary, c'est quelqu'un qui veut tout.
Mais est-ce que ça ne relativise pas la nouveauté de Madame Bovary, le roman, quand on se souvient ce que vous avez dit en première partie, justement, sur Constant, qui du coup évoquait déjà ce genre de sujet?
Oui, mais chez Madame Bovary, ce qui est nouveau complètement, c'est que l'amour devient une marchandise. Ce que Madame Bovary veut dans l'amour, c'est ce qu'elle veut.
Elle consomme.
C'est une consommatrice d'amour.
Elle veut toutes les formes d'amour, elle veut tout essayer.
Elle veut non seulement tout essayer, mais elle pense qu'on peut, on peut avoir tout en même temps. C'est quelqu'un qui veut l'amour physique, qui veut l'amour éthéré, qui veut l'amour conjugal, qui veut, qui voudrait l'amour des enfants si c'était possible, et qui veut accaparer tout ça. Je veux dire que elle n'est pas amoureuse, elle a de l'amour.
Ouais. Eh bien, ça ne marche pas, nous dit Flaubert, tenons-le pour dit.
Une porte de cette salle à manger était grande ouverte. On entendait dans la pièce attenante jouer du piano. Maul n'avança curieusement la tête. C'était une sorte de petit salon parloir. Une femme ou une jeune fille. Un grand manteau marron jeté sur ses épaules tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnette. Sur le divan tout à côté, 6 ou 7 petits garçons et petites filles, sages comme le sont les enfants lorsqu'il se fait tard, écoutaient. Après cette fête où tout était charmant mais fiévreux et fou, Maul ne se trouvait là, plongé dans le bonheur le plus calme du monde. Sans bruit, tandis que la jeune fille continuait à jouer, il retourna s'asseoir dans la salle à manger et, ouvrant un des gros livres rouges épars sur la table, il commença distraitement à lire. Presque aussitôt, un des petits qui était par terre s'approcha, se pendit à son bras et grimpa sur son genou pour regarder en même temps que lui. Alors ce fut un rêve, comme son rêve jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano près de lui, c'était sa femme.
Cet extrait, vous l'avez reconnu, Pierre Lepape, du Grand Maulne, lu par Guillaume Gallienne, le Grand Maulne, qui figure également dans votre livre, une histoire des romans d'amour. Celui-ci, pourquoi l'avez-vous prélevé parmi toutes les possibilités ?
Parce que c'est un roman d'amour qui est qu'on donne en général à lire aux adolescents.
C'est même le grand roman de l'amour adolescent.
Ce qui est assez remarquable en soi, parce qu'en général, les romans d'amour, on les tient à distance des adolescents. Et celui-là, on en a fait une sorte de modèle, précisément parce que il prend l'amour comme une réalité, mais comme un rêve. Et d'une certaine manière, pour faire lire les adolescents et leur parler d'amour, le faire sur le mode du rêve, de l'irréalité, de ce qui se touche à peine, c'est quelque chose de rassurant.
Bon, il faut dire que Alain Fournier lui-même était très jeune quand il a écrit ce livre, et c'est d'ailleurs le livre qu'il a écrit avant d'être tué par, à la guerre, tout simplement, dans les tranchées de 14.
Oui.
Donc ça, c'est important aussi, j'imagine, que l'auteur soit lui-même quelqu'un de très jeune. Des romans écrits par des gens très jeunes au XXe siècle, des romans d'amour, il y en a eu plusieurs quand même. On a l'impression que le centre de gravité aussi de l'amour s'est encore rajeuni. Ça a toujours été le domaine de la jeunesse, mais je sais pas, je pense à L'Attrape-cœur, par exemple, de Salinger. Là aussi, c'est un jeune garçon, c'est un adolescent même qui est le héros de ce livre-là.
Oui, il y a une tradition, en effet, des jeunes gens. Il y a aussi Radiguet et le bal du comte d'Orgel. Radiguet a dû écrire à 17 ans ou 18 ans. Il y a un rajeunissement comme si les lecteurs devenaient de plus en plus adolescents au fur et à mesure que le roman se répandait. D'une certaine manière, on peut penser que maintenant on écrit véritablement les auteurs classiques ne savaient pas pour qui ils écrivaient, en quelque sorte. Les auteurs modernes ont cette chance, ou cette malchance, enfin, on peut savoir les deux, d'avoir un public pour lequel ils écrivent.
Mais Lolita, par exemple, c'est un roman pour qui? Pour qui est écrit ce roman qui parle en effet des très jeunes filles, mais enfin, c'est qui n'arrive vraiment pas destiné.
C'est pas un roman pour les très, c'est pas un roman pour les très jeunes filles. C'est un. Alors, Lolita, c'est encore autre chose.
C'est pas un roman d'amour, Lolita.
C'est un roman d'amour.
Si, c'est un roman d'amour.
Bien sûr, c'est un roman d'amour. Oui, c'est un roman d'amour. C'est un roman d'amour d'une certaine manière scandaleux et impossible, mais comme beaucoup de romans d'amour. Enfin, ça introduit un scandale comme Lady Chatterley à l'intérieur des romans d'amour. Mais c'est évidemment un roman d'amour. Mais c'est un roman d'amour là aussi condamné. Dès l'origine. Mais c'est aussi le roman de la vieille Europe qui aime la jeune Amérique. C'est pas c'est en même temps un roman politique. C'est l'un et l'autre.
Et alors finalement, la deuxième partie du XXe siècle, ça va être un peu la fin quand même des romans d'amour comme on les connaît. Bon, il y a Belle du Seigneur, mais c'est peut-être le chant du cygne quand même du chant d'amour.
Belle du Seigneur, oui, c'est un roman, je dirais presque contre l'amour. Oui.
Mais enfin, on retrouve un petit peu quand même les grandes caractéristiques du roman d'amour, alors que dans Passion simple, par exemple, d'Annie Ernaux, ou même dans Fragments d'un discours amoureux de Barthes, dont vous dites qu'en réalité c'est un roman et pas un essai, on est très loin de ce qu'on connaissait avant, de ce qu'on appelait avant le roman d'amour.
C'est-à-dire qu'on est loin de la forme romanesque telle qu'elle existait. Je crois que Barthes n'aurait jamais osé écrire un roman. Enfin, c'est sa manière à lui. Il a tourné autour du pot, je dirais, toute sa vie, et à la fois le bar par lui-même et le fragment de discours amoureux sont deux manières d'aborder sa personne, d'aborder son...
Vous le voyez comme une autobiographie, en tous les cas.
Ce sont des formes d'autobiographie. Alors, ce sont des autobiographies où on commence à dire au début, c'est un romancier qui écrirait que... Enfin, on le met au conditionnel, on entoure tout ça de beaucoup de précautions, mais en fin de compte, il s'agit quand même d'autobiographie.
Comme dans Passion simple, Daniel Arnaud. Bon, mais là, c'est
comme
plus
dans
clair.
Passion simple. Mais dans Passion simple, c'est une autobiographie qui se donne comme telle. C'est-à-dire que le jeu, c'est la sincérité, la réalité, l'exactitude la plus grande. C'est-à-dire que à la limite, il y a plus de roman. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux textes aussi pour terminer le livre. C'est que le roman d'amour, en quelque sorte, il reste l'amour, il reste la célébration d'une certaine manière de l'amour, mais que la partie romanesque proprement dite, dire que l'invention de l'amour laisse le pas complètement à la description.
C'est ça, comme dans l'autofiction, dont vous ne parlez pas vraiment spécifiquement, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une histoire d'amour quand Christine Angot raconte ses relations avec les hommes dont elle est cependant passionnée, enfin, ou amoureuse, je ne sais pas.
Oui, mais c'est là aussi on est dans une limite du roman. Dire que on est dans la partie roman, je disais tout à l'heure qu'il y a une partie descriptive et une partie inventive. Et là, la partie descriptive a entièrement mangé la partie inventive.
Il y a un côté un peu scientifique maintenant.
Il y a un côté purement descriptif, oui.
Ouais, vous trouvez que c'est un signe des temps, un signe de
l'époque ?
C'est
en tout cas le signe d'une crise du roman. Pas une crise
du roman ou crise de l'amour ? Bah si, voilà, vous posez la question.
Mais je ne crois pas qu'il y ait véritablement une crise de l'amour. Mais qu'est-ce que devient l'amour sans le roman ? Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas encore envisager.
Et ben, nous restons sur cette question. Merci beaucoup, Pierre Lepape. Nous avons à peine effleuré ici l'ensemble des écrivains dont vous parlez dans votre livre paru en 2011 au Seuil, une histoire des romans d'amour que les auditeurs pourront, s'ils le souhaitent, se procurer en librairie. c'était La Compagnie des Auteurs, une émission de Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Garance Mazelier et Emmanuel Morse-Duncan. Demain, nous continuons à explorer les sources de la littérature amoureuse avec cette fois Tristan et Iseut, dont nous parlera Christiane Marcello-Nisia. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver la poésie avec, comme chaque jour, le choix de texte de Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, nous la passerons ensemble avec Volker Braun. Poète contemporain de langue allemande, l'un des plus importants, il est traduit par Alain Lanz. C'est une vieille amitié. Il est originaire de la RDA, né à Dresde, poète de l'Est. Il se souvient du bombardement. La beauté et l'horreur firent son éducation esthétique. Et le jour de son 6e anniversaire, en 45, mai 45, il fit l'expérience de la libération et de l'occupation. Ce sens de la contradiction est une donnée permanente chez lui. Mon frère, page 88 des poésies choisies dans l'édition Poésie Gallimard, le mendiant sur les marches poisseuses de Banco di Roma, sur un bout de carton ondulé, brother, encagoulé dans sa casquette à midi, qu'ai-je de plus que lui ? Rien d'autre que mon poème qui m'offre gîte et couvert. Mes mots, ces mots, sont couchés sur le papier, crasseux et dévoilés. Paroles sans vergogne qui logent dans la rue, mendiant la pitié. Un gamin efflanqué, la main tendue, titube de l'un à l'autre, vers une autre personne, les roms dans les gaz d'échappement. Je n'ai même pas un espoir de plus que toi. Volker Braun. Reste cet homme, ce poète qui écrit un témoignage de l'Est après 1989, après la chute du mur. En Bohême et en Moravie, j'y logeais en Bohême et Moravie, des blindés m'enchassèrent sans préavis. Me voici au sec dans le gris de l'offre, serrant dans mes mains le blindage des coffres. Cherchez pas à comprendre, c'est de la poésie. La propriété. Le titre semble dire, mais parlons-en, parlons-en, la propriété. Je suis là encore, et mon pays passe à l'ouest. Guerre aux chaumières, paix au palais. Je l'ai flanqué dehors comme on fait d'un vaurien. Il brade à tout venant ses parures austères. L'été de la convoitise succède à l'hiver. Et à mon texte entier, on ne comprend plus rien. On me dit de planter mes pénates dans la brousse. On m'arrache ce que je n'ai jamais possédé. Ce que je n'ai vécu va toujours me manquer. Comme un piège sur la route, l'espoir était à vif. Ma propriété, la voici dans vos griffes. Quand redirai-je à moi, en voulant dire à tous ? Ô Chicago, ô contradiction. Parfois dans les vers de Volker Braun passe un souvenir de théâtre. Hein, tout à l'heure c'était Shakespeare. L'été de la convoitise succède à l'hiver, l'hiver des déplaisirs. Là, écoutez, Brecht, votre cigare s'est-il éteint ? Avec ces séismes que nous avons déclenchés dans les États bâtis sur du sable, le socialisme s'en va, Johnny Walker arrive. Je ne peux le retenir par les idées qu'il perd de toute façon. Les rues chaudes de l'octobre sont les froids chemins de l'économie Horatio. Je mets le chewing-gum dans ma bouche. Voici venu ce qui ne vaut pas d'être nommé. Je lis chez Dante que les damnés strictement assignés dans le périmètre de l'enfer endurent leurs tourments à proportion de leur forfait. Mais nous, égarés qui perdons nos forêts, nos plaines, découvrons le châtiment approprié de notre vivant.
Merci Jacques Bonafé, et vous nous lirez toute la semaine des textes de Volker Braun.